vous en êtes venu à la littérature persane, quelques éléments de votre enfance, etc. C'est très long à dire. Non, en fait, c'est pas du tout long. La littérature persane, alors je suis née en Iran d'un père iranien et j'ai grandi, je suis restée en Iran jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors certes, je suis allée au lycée français, mais en Iran, la poésie fait partie de la vie quotidienne. Et pour tout le monde, les poètes, en fait, les lieux de pèlerinage les plus prisés sont les tombeaux des poètes. Vous seriez étonné de voir comment les gens vraiment vont se recueillir sur les tombeaux des grands poètes comme ils iraient se recueillir sur des tombeaux de saints, en réalité. J'ai même vu des très belles scènes où, par exemple, des jeunes couples qui venaient en pèlerinage sur le tombeau pour recevoir la bénédiction du poète ou qui venaient présenter leur bébé au poète, puisque nous disons des poètes qu'ils sont les intermédiaires entre les hommes et le ciel, et qu'ils sont aussi le langage de l'invisible. Donc, en fait, quand on vit en Iran et qu'on parle persan, on baigne dans cette atmosphère depuis sa plus tendre enfance. Même ma nounou, qui était illettrée, par exemple, me racontait des histoires tirées du Cantique des oiseaux, parce que c'est de la tradition orale que tout le monde connaît. Donc, voilà. Et puis, au-delà de ça, mon père est lui-même poète. Il avait une émission de littérature à la télévision iranienne avant la révolution. Donc, très jeune, il m'a emmenée dans des cercles de lecture poétique. Donc, j'ai bu ce lait dès l'enfance. Et mes parents étant aussi très en recherche ils étaient vraiment dans une quête spirituelle très forte. Ils m'ont aussi beaucoup emmenée dans des assemblées de prières, soufis ou pas d'ailleurs, mais enfin, en général, pas des choses très, très officielles. Voilà. Merci. Mais voilà, donc ils nous ont vraiment transmis tout cela. Et c'est d'ailleurs, je réponds à une question qui m'a été posée aussi dans une autre question, c'est avec mon père que je suis allée la première fois au Kurdistan, je devais avoir 11-12 ans, et que j'ai rencontré donc Malek Jan dans son village à ce moment-là, parce que mon père était allé lui rendre visite à elle, et il m'a emmenée, et vraiment j'en ai eu une impression extrêmement forte, qui fait qu'après je suis retournée plusieurs fois, je l'ai vue plusieurs fois à Téhéran quand elle y était, et puis je l'ai vue à la fin de sa vie en France quand elle était venue se faire opérer, et voilà, et donc l'impression de sa présence était si fort que j'ai voulu, pour son centenaire, donc rendre témoignage, puisqu'en fait, il ne reste rien d'elle de publié. Ce travail que j'ai fait, c'est un travail où je suis allée rechercher les notes qui avaient été prises par des gens qui étaient présents, des gens qui avaient pris en note ses poèmes, parce qu'elle ne les avait pas écrits, elle les avait dit. Je suis allée donc dans le Kurdistan rencontrer des gens qui la connaissaient, je suis allée voir les gens de sa famille qui étaient proches d'elle. Et donc, j'ai rassemblé toutes ces choses. Évidemment, c'était des notes qui avaient été prises en persan et en kurde. Donc voilà, et j'ai rassemblé tout ça. J'ai fait sa biographie, j'ai mis des extraits de son enseignement et quelques-uns de ses poèmes. Et en fait, c'est la première fois qu'un livre était publié sur elle, et ça a été fait en français. Et ma grande fierté, c'est que ce livre a été traduit en persan. Donc c'est après, mais c'est en deuxième partie. Bon, après, ça a été traduit aussi en italien, en allemand, en anglais. Mais voilà, ce qui est très, très touchant, c'est que ça a été traduit en persan, c'est publié en Iran. Et donc, l'éditeur en Iran m'a demandé de lui redonner les originaux en persan. Alors, la biographie, non, c'est une traduction, bien sûr, du texte, parce que je l'avais écrit en français. Mais sinon, tous les textes, tout ce qui est de l'ordre de son enseignement ou ses poèmes, en fait, n'existait qu'à l'état de manuscrit. Donc, j'ai eu la grande fierté de les donner à publier pour la première fois à la suite de la publication française. Voilà. Donc, je suis venue en France quand j'avais 15 ans. Mais je pense que ce qui se passe dans les premières 15 années de la vie est évidemment déterminant pour la suite. Et en fait, après, je me destinais à la littérature anglaise. J'ai étudié la littérature métaphysique et mystique anglaise. Et j'ai fait un master sur William Blake, par exemple. Et puis après, j'ai fait du persan juste à l'université à la Sorbonne Nouvelle, comme ça, histoire de ne pas perdre le contact avec ma culture. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée dans l'océan et mon professeur m'a dit « Mais enfin, en anglais, il y a des dizaines de personnes qui travaillent, mais en persan, je vous attendais », m'a dit mon prof. Je dis « Bon, bah, si vous m'attendiez, allons-y ». Et c'est comme ça que j'ai fait une thèse, donc j'ai fait ma thèse de doctorat sur Rumi. Et voilà, c'était sans doute écrit quelque part que je deviendrais professeur de littérature persane, parce qu'en effet, j'ai probablement plus ma place comme professeur de littérature persane que comme professeur de littérature anglaise. Et ma mère. Alors, ma mère, justement, l'anglais me vient de ma mère, bien qu'elle soit française, mais elle était professeure d'anglais. Et donc, ça ne veut pas dire que j'ai quitté ma mère pour mon père, pas du tout, parce que ma mère était aussi, elle a fait les langues zoo bien avant que moi j'y sois prof, évidemment. Et elle a étudié le persan, et la première fois que j'ai lu le Cantique des oiseaux, je l'ai lu dans la version annotée de ma mère, avec tous les mots traduits, évidemment, puisque ça faisait partie de ses études. Et elle est totalement bilingue, elle a une vraie passion pour la littérature persane, mais aussi pour la littérature française. Donc elle, ce qu'elle m'a transmis, c'est la capacité peut-être de traduire en français, puisqu'elle m'a fait lire Victor Hugo, et que pour traduire à Attard, je me suis nourrie de Victor Hugo pour justement être dans quelque chose qui soit un peu de la même texture, je dirais, spirituelle et poétique. Et donc voilà, donc elle, c'est vraiment l'amour de la littérature française et anglaise et qui ne m'ont pas quittée. En réalité, vous savez, la littérature, pour moi, c'est comme la spiritualité. C'est une grande, grande famille avec des langues différentes et des cultures différentes. Mais finalement, par exemple, la chronique que je faisais dans Le Monde des religions qui s'appelait L'être spirituel, c'était vraiment ça. C'était vraiment l'idée de dire, dans la littérature universelle, il y a des œuvres qui sont de la nourriture pour notre âme, quelle que soit la langue de départ, que ce soit la Divine Comédie de Dante ou le Banquet de Platon ou Hamlet, ou enfin, évidemment, j'ai commencé par Dostoïevski parce que c'est mon grand amour. Mais voilà, donc toutes les grandes œuvres, tous les grands poètes et tous les grands écrivains nous parlent de leur cheminement en fait intérieur et nous aident à faire ce cheminement intérieur. Et c'est comme ça que voilà, c'est pour ça que je milite, je dirais. S'il y a quelque chose pour lequel je milite, c'est l'idée qu'il y a une unité de l'âme humaine. Et que nous devons nous abreuver à toutes ces sources qui du passé qui nous, et du présent d'ailleurs, qui nous apprennent le chemin de la vie. Vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, pourriez-vous nous expliquer à quoi correspond chacune des sept vallées traversées par les oiseaux ? Je ne peux pas répondre à cette question. Après, suite de la question, y a-t-il une correspondance avec les sept péchés capitaux ? Pas du tout. Les sept vallées, comme je l'ai dit, donc il y a la vallée du désir, de l'amour, de la connaissance, de l'unité, de la perplexité, du dénuement et de l'anéantissement. Et en fait, ça correspond à des étapes intérieures. Mais, comme je l'explique dans l'introduction assez longuement, en fait, ça se recoupe. On ne peut pas dire, d'ailleurs, Attard l'explique très bien, il dit en fait ce sont des unités, comme des unités de valeur qu'il faut avoir accomplies, c'est-à-dire qu'il faut avoir connu le désir, il faut avoir connu l'amour, il faut avoir connu l'unicité, la perplexité, la connaissance, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on les fait les uns après les autres. Très souvent, en fait, on fait ce cheminement, comme il le dit d'ailleurs à la fin, d'abord c'est un cheminement intérieur, et c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'on fait toutes ces choses en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut d'abord avoir accompli l'amour pour pouvoir arriver à la connaissance, parce qu'en réalité, ça va ensemble et ça se nourrit les uns les autres. Et quand on regarde avec attention la description des vallées, on voit bien que dans toutes les vallées, on a besoin du désir, dans toutes les vallées, on a besoin de l'amour, dans toutes les vallées, on acquiert une forme de connaissance, dans toutes les vallées, il y a des moments d'incroyable perplexité devant le paradoxe, les paradoxes du chemin spirituel. Et finalement, toutes ces vallées aussi doivent mener à l'anéantissement. Quelqu'un m'a dit, ne dites pas du soi, parce que le soi, c'est bien. Alors, on va dire un anéantissement de l'ego. et ce dénuement qui est si essentiel et dont vous avez si bien parlé hier, pour laisser place en fait à l'autre. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que sinon ce serait refaire une autre conférence très très longue, et je ne suis pas sûre que vous ayez la patience pour ça. Mais c'est vrai que, puisque en fait toutes les vallées sont décrites par Attar, donc il décrit très très bien le processus qui doit être enclenché en fait pour acquérir. C'est pas du tout des péchés, c'est justement des vertus qu'il faut acquérir, parce que le désir est une vertu sur un plan spirituel. Il faut avoir le désir, et d'ailleurs dans la poésie mystique on dit très souvent que tout ça commence par Dar de Din, c'est le désir douloureux de l'âme en quête de la vérité. Donc, et si on n'a pas cette espèce de douleur, vous savez, qui est associée au désir, qui est une soif en fait, eh ben on ne peut pas avancer. En fait, il faut la soif. Et c'est le commencement de tout. Mais la soif, elle est là tout le temps. Elle est là jusqu'à la fin. Enfin, j'espère. Ne cherche pas l'eau, disait Rumi, cherche la soif. Je veux un assoiffé. Donc.
Si je peux faire
un, bien sûr,
un petit commentaire, parce que péché capitaux, ça me concerne un peu.
Oui, bien sûr. Pas que vous,
personnellement,
hein. je crois que ça concerne tout le monde.
juste une observation, c'est que ce qui a transité dans le courant catholique, surtout, comme péché capital, en fait, au départ, c'était l'identification par les pères du désert de ce qu'ils ont appelé, eux, des vices. Et il y en avait huit. Et vices, il y en avait huit, oui. On en a perdu un en cours de route. L'orgueil, le plus important. Oui, oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'historique. Et en fait, les pères étaient des grands psychologues. Parce que dans la mesure où on se met à distance de l'ego et on essaye de ne plus se faire piéger par lui ou entraîner ou guider par lui, forcément, on finit par avoir un regard extérieur à lui, c'est-à-dire un regard qui le comprend et qui le connaît davantage. Et donc, ils étaient très fins psychologues. Et ils avaient identifié des obstacles, on pourrait dire des obstacles, plutôt, ils ne parlaient pas de péché, des obstacles ou des brèches par lesquelles l'ombre peut s'engouffrer en nous, hein, des brèches. Donc, voilà. Alors, Cassien les a décrits, évidemment, de l'expérience qu'il a collectée là-bas au désert, c'est les pères. Et c'était toujours huit, et puis il y a eu un concile, je ne sais pas quoi, je ne sais plus quel pape, qui a enlevé un des péchés, l'orgueil, le considérant comme le plus important. Et celui-là, on va le mettre ailleurs. Et c'est resté sept. Peut-être aussi en lien avec les sept démons dont le Christ avait délivré Marie-Madeleine. Enfin, bon, voilà.
Juste. Oui, non, je crois que c'est un point très important que ça. C'est-à-dire que souvent, maintenant, on pense à... Il y a un immense malentendu qui s'est installé et qui a amené ce qu'on appelle la morale officielle, voilà, qui se base sur le fait que non, ça c'est mal, et ça c'est... Voilà, ça c'est le mal, ça on est... Voilà, il faut se mortifier pour sortir de sa chair tout ce mal qu'on a commis, etc. Je pense que c'est parti d'un malentendu terrible, qui est que c'est pas une question que c'est... Le mal, c'est pas quelque chose parce que la morale dit que c'est comme ça, alors il faut pas faire comme ça, et ça. Le mal, c'est ce que je disais hier, c'est tout ce qui nous éloigne de la vérité. Et les sept péchés capitaux, dans la mesure où ils sont des attachements, où ils sont des sortes de trahison de la vérité qui a été déposée en chacun de nous, en ce sens, c'est le mal. Et je crois qu'il y a... beaucoup de gens qui sont devenus allergiques à la religion à cause de ce malentendu fondamental sur la question de la morale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher la plus grande rectitude éthique possible, mais il ne faut pas la rechercher parce que sinon c'est très très mal. Il faut la rechercher parce qu'il se trouve que les vertus morales, ce qu'on appelle les vertus morales, sont en accord avec la vérité qui est en nous, tout simplement. Et tout ce qui nous éloigne de ça, c'est ça le mal, je crois. C'est d'où l'idée de mal. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui, avec ça. Mais alors, les pères du désert le décrivent très, très bien, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de... C'est pour ça que le Christ a autant de tolérance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est intransigeant, qu'il apporte le glaive, en même temps, il sait très bien qu'on est dans une espèce de combat entre la lumière et les ténèbres, et que ce combat, il ne va pas se mener de l'extérieur en vous disant « il ne faut pas que tu fasses ça, c'est très mal, après il faut que tu ailles te confesser si tu as... Hein. » Oui, se confesser, oui, à nouveau aussi, c'est un mouvement intérieur de compréhension. Pourquoi ce que j'ai fait là n'était pas juste? Si c'est juste pour dire « gna 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 », ma mère me raconte quand elle était petite, elle a inventé des péchés parce qu'il fallait absolument qu'elle ait quelque chose à dire à confesser. Alors qu'en fait, justement, se confesser, c'est vraiment reconnaître en soi cette brèche, je crois. Et tant qu'on ne l'a pas fait, je m'éloigne totalement. Non, pas. Je ne m'éloigne pas tant que ça, parce qu'en fait, la question suivante, c'est: pouvez-vous dire que Rumi, par ses écrits, a été un évangéliste de l'islam? Nombreuses citations et toutes les références à Jésus-Christ. S'est-il inspiré de l'Ancien Testament et des Évangiles? Et deuxième question qui va avec, l'incarnation de Dieu sur terre prenant le corps de Jésus, par exemple, pour les compagnons d'Emmaüs, s'est-il incarné aussi? Enfin, est-ce la même chose pour Shams et Rumi? Alors, je ne sais pas si on peut dire que Rumi est un évangéliste de l'islam. Ce qu'on peut dire, c'est que Rumi est vraiment le grand poète de l'amour. Si on dit que les évangiles, le message, et c'est ce que vous avez dit avec, à juste titre, que finalement ce que les évangiles apportent de quand même nouveau, dans ce sens, c'est le Nouveau Testament, c'est que Dieu est amour. Alors dans ce sens, oui, parce que Rumi est vraiment le poète de l'amour. Pour Rumi, il n'y a aucun doute, Dieu est amour. Mais je ne crois pas qu'il dise cela parce qu'il s'est inspiré des évangiles. Évidemment qu'il connaissait l'Ancien et le Nouveau Testament, on en voit des références dans son œuvre, mais on voit encore plus de références au Coran et aux dits du prophète de l'islam. Et je dirais que Rumi est arrivé à la même conclusion que le Nouveau Testament, mais pas en passant par un autre chemin. C'est très rassurant. Ça veut dire que quand on est très avancé spirituellement, on arrive au même point. C'est très très rassurant pour nous tous. Ça veut dire que, a priori, ce qu'ils disent est vrai. C'est probablement que leur expérience correspond à quelque chose de vrai, puisqu'ils disent la même chose, alors qu'ils sont des traditions très éloignées. Donc, en ce sens, oui, c'est le grand poète qui affirme avec une incandescence inouïe que Dieu est amour, mais il le fait à partir de cette expérience qui est sa propre expérience. Alors, et je réponds à la deuxième question, on va dire de l'incarnation, parce qu'on comprend très bien ici ce que ça veut dire. À l'époque de Rumi, ce mot n'était pas employé, parce que c'est en persan, enfin en arabe, incarnation, être incarnationniste, c'était condamné, c'était quelque chose qui était passible de la peine de mort. Donc le mot ne sera jamais employé. Ce sera toujours sous forme métaphorique, mais quand on lit, quand on voit, on ne peut pas dire autrement. Il a fait, je pense, il a fait une expérience qui est du même ordre que ceux qui ont connu le Christ en tant que personne historique. Je ne parle pas de ce qui se passe sur un plan intérieur. Je crois qu'il a vu dans Shams vraiment ce qu'il appelle lui-même la théophanie. Alors, en islam, on est beaucoup plus à l'aise, donc ils sont beaucoup plus à l'aise, les penseurs et les poètes et les exégètes musulmans, pour parler de théophanie plutôt que d'incarnation. Bon, enfin, entre nous soit dit, ça revient un peu au même. Théophanie, ça veut dire qu'il voit dans un être vivant, dans un corps vivant, la manifestation de la lumière divine. Comme son nom l'indique, un théophanos. Et le fait qu'il s'appelait Shams, évidemment, fait que du coup Rumi utilise ce nom, le soleil, pour dire que c'est le soleil duquel émanent tous les autres soleils qui s'est manifesté à lui dans cette personne qu'était Shams. Donc, y a quelque chose qui ressemble énormément. Où, quand on lit les évangiles aussi et qu'on voit l'effet que faisait la présence de Jésus sur son entourage, en réalité, quand on parle du personnage historique, il faut dire de Jésus. Donc, quand Jésus, voilà, l'effet qu'il faisait, en particulier sur l'expérience qu'on a eue, par exemple, quelqu'un comme Marie-Madeleine, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est celle qui peut être, plus que tous les autres personnages des évangiles, et comprend, corps et âme, ce que c'est que cette présence à la fois de chair et de lumière. Et je crois que Rumi a eu une expérience de cet ordre-là, c'est-à-dire il a compris cette chose inouïe qui est la conjonction du verbe et de la chair, enfin de la lumière et de la chair dans un être vivant. Et c'est pour ça que c'est aussi extraordinaire de le lire. Je pèse mes mots, hein, je n'ai pas coutume d'employer des mots un peu excessifs, mais pour Rumi, je peux le dire, l'expérience de lecture de Rumi, quand on s'y abandonne, quand on accepte de s'y abandonner, réactive ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être en présence de ça. On en a presque la nostalgie, on aurait aimé... voilà, de même qu'on aurait aimé évidemment laver les pieds du Christ, on aurait aimé aussi rencontrer Shams. Mais voilà, on refait cette expérience. Pour moi, sur un plan personnel, là je vous parle vraiment, je ne parle pas en tant qu'universitaire, je vous parle en tant que voilà, de la façon dont j'ai expérimenté ces textes. Lire Rumi, ou lire Shams, d'ailleurs, ça me fait le même effet que lire les évangiles. Je sais que ce n'est pas très catholique de dire ça, mais... mais ça me fait vraiment le... C'est du même ordre, c'est du même... voilà, c'est une expérience qui est vraiment du même ordre et qui donne la même... à la fois la même brûlure et la même nostalgie et le même désir et aussi l'expérience d'une présence. Enfin, je pense qu'on ne peut pas nier que ça... C'est presque comme si on y était, quoi. C'est ça qui est extraordinaire dans les très très grandes, dans les témoignages, voilà, un très grand témoignage de la présence. C'est quand même miraculeux parce qu'on a l'impression que ça se reproduit d'une certaine façon. Mais oui, mais ça, je peux pas en parler vraiment.
Quand je lis Rumi, je respire le parfum de l'Évangile, oui. Pour ma part.
Alors ça, c'est un témoignage très, très important, parce qu'évidemment, Rumi, c'est ma tradition, donc on pourrait me penser que je suis de préjugés, enfin, de parti pris, voilà. Mais là, en l'occurrence, mais je crois que beaucoup de personnes ont cette expérience. Oui. Et c'est ce qui fait son universalité, en réalité. Il paraît que Rumi est un best-selling poet aux États-Unis. Et que vraiment, il sort un Rumi tous les mois et que c'est un succès de librairie absolument invraisemblable. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas sur un malentendu, mais enfin bon. C'est pareil. Alors, comment la non-dualité est-elle évoquée dans le Cantique des oiseaux ou chez Malek John ou chez Rumi? Y a-t-il la notion de trinité dans le soufisme et l'islam? Alors, la notion de trinité dans le soufisme et l'islam, surtout pas. L'islam se constitue l'islam d'après le prophète. Hein. Parce qu'en réalité, on n'en a pas une... Le Coran ne dit rien sur la question de manière explicite. Mais enfin, disons que l'islam des premiers temps se constitue contre cette idée de la trinité au nom de sa spécificité qui est d'affirmer l'unicité divine. Mais je dirais que si l'islam se constitue d'une certaine façon contre, à la fois d'un côté ça se constitue contre l'idolâtrie, le polythéisme arabe qui était la religion la plus commune en fait dans l'Arabie de l'époque, et à la fois contre la Trinité, mais en fait d'une certaine façon c'est sur un malentendu. C'est parce que je pense que les premiers musulmans ne comprenaient pas ce que signifiait la Trinité. Et que les premiers musulmans étant eux-mêmes des héritiers, venant eux-mêmes du polythéisme, qui était à la Mecque, la Mecque d'aujourd'hui, autour de laquelle pèlerinent les musulmans, était le temple dans lequel il y avait toutes les idoles. Et la tradition raconte que quand le prophète Mohammed est arrivé en conquérant à la Mecque, donc après son voyage, il a détruit toutes les idoles, et la seule, entre guillemets, idole, justement, la seule chose qu'il n'a pas détruite, c'est une icône qui représentait une vierge à l'enfant. Et il a dit, non, ça, c'est pas une idole. Donc il a laissé la vierge à l'enfant en disant, non, ça c'est la vérité, ça fait partie de la vérité, c'est pas une idole. Mais les Arabes, qui eux-mêmes étaient héritiers d'une société polythéiste, ça c'est une théorie totalement personnelle, hein, c'est pas du tout une... Je pense que la raison pour laquelle ils se sont opposés à la Trinité, c'est parce qu'ils avaient une lecture polythéiste de la Trinité. Ils ont cru que la Trinité, ça voulait dire qu'on avait trois dieux. Et ils n'ont pas compris que c'était trois c'est évidemment que les chrétiens sont monothéistes et que la Trinité, ça ne fait pas des chrétiens des polythéistes. Mais ils l'ont interprété comme ça, et c'est la raison pour laquelle ils ont vraiment rejeté ça comme étant une marque de la déviance des chrétiens qui s'étaient complètement fourvoyés et ne comprenaient plus rien au message de Jésus parce qu'ils ont mal compris la notion de Trinité. Peut-être que vous avez des lumières sur cette question.
Petite chose, il y a une erreur de traduction en réalité qui est historique. On a dit trois personnes divines en utilisant le terme latin persona parce que on avait déjà utilisé un autre terme qu'on ne pouvait pas réutiliser. En réalité, en grec, c'est ousia. Alors on devrait dire des essences ou des parfums. Plutôt que des personnes. Ce ne sont pas des entités distinctes. Mais le fait historiquement, c'est que, voilà, ça a été traduit, je crois, par Jérôme, Saint-Jérôme, on a choisi le mot persona, et du coup, on en a fait une personne, des personnes différentes. Et effectivement, jusqu'à présent, les échanges que j'ai eus avec des musulmans à propos de ça, voilà, ça se heurtait à... Alors, j'essayais de montrer avec trois allumettes, trois flammes, ou quoi, mais... Bon,
oui, mais alors c'est d'autant plus étrange qu'il y a dans la tradition musulmane quand même la tradition des attributs. Parce que l'essence de Dieu est unique, mais Dieu a 99, voire 999 noms ou attributs. C'est quand même un peu plus que 3. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire le... c'est vraiment quelque chose, je crois vraiment que c'est lié au fait que, vous avez peut-être raison, c'est peut-être les chrétiens eux-mêmes qui ont employé un mot... Qui a amené un malentendu complet pour tout le monde. Et du coup, dans leur tête, c'est un truc... ah ben non, il y a trois dieux. Mais non, il n'y a pas trois dieux. Dieu est un. Voilà, Dieu est un. Évidemment que Dieu est un. En tout cas, du point de vue des chrétiens, il est évident que Dieu est un. Et donc voilà. Alors, quant à la non-dualité, là aussi... Alors, c'est très intéressant parce que... L'islam est une religion de l'unicité, comme on a dit, mais quand même, comme toute religion, du moment qu'elle devient historiquement établie et qu'elle devient source de pouvoir, bizarrement, il développe une idée de il y a le bien, il y a le mal, il y a les fidèles, les infidèles, il y a les croyants, les incroyants. Donc, d'un coup, on devient dualiste. Très étrange, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'une religion devient religion d'État, elle devient dualiste. Peut-être parce que c'est plus simple. Le dualisme est quand même infiniment plus simple. Ça permet de savoir qui est les bons et les méchants. Voilà, ça permet de distinguer les bons et les méchants. Voilà. Et donc voilà. Mais quant aux mystiques, évidemment, ils n'entrent pas dans la catégorie des gens à l'esprit je dirais à l'esprit informatique, hein, parce que comme vous le savez, l'informatique est basée sur 0 ou 1, hein, faut savoir. Ben non. La mystique, ce n'est pas 0 ou 1, c'est juste 1, c'est tout. Donc il n'y a pas, de dualité, et ça se manifeste tout le temps chez Attar, puisque sans cesse il dit, en fait, dans l'amour, l'amour est au-delà du bien et du mal, l'amour est au-delà de la foi et de la croyance. Quand on arrive au sommet de la pyramide, quand on arrive au bout du chemin, quand on arrive dans la pure intériorité, le dualisme, c'est même pas que ça n'existe pas, c'est que ça n'a pas de sens. Ça perd toute sa pertinence. C'est très utile, le bien et le mal, c'est très utile pour se dépatouiller au début. Évidemment, il y a la vérité et le mensonge, ça, il n'y a pas de doute sur la question, mais il y a un point au-delà duquel ce sont des catégories non pertinentes. Et en ce sens, l'hindouisme est très proche, en fait, du soufisme. L'hindouisme authentique, philosophique. À chaque fois que j'ai lu un texte hindou, je me suis dit, ils sont incroyablement unicistes. Ils parlent tout le temps de l'Inde. Je me dis, c'est quand même bizarre, parce qu'ils adorent tout ce panthéon des dieux et tout ça. Et là, c'est pareil, je vois bien que c'est un malentendu. C'est que les hindouistes savent très bien que le panthéon des dieux, c'est jamais que des manifestations, temporaires même, de l'un. Et j'ai posé la question à Marc Balanfa, qui est quand même le grand spécialiste de la philosophie hindoue. Il m'a dit, mais il n'y a pas plus uniciste que les hindous. Et en fait, l'islam n'a rien inventé, mais il faudrait leur expliquer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée que l'hindouisme est très, très uniciste.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais même dans l'autre sens, quand, entre le christianisme et le soufisme, je sens des liens très étroits de fraternité de pensée, etc. Ouais. Personnellement.
Ce qui ne remet pas en cause le fait que chacun appartient à une tradition. Frédéric Lenoir m'avait raconté un jour qu'il avait il était allé rendre visite au Dalai Lama, et il y avait là un Anglais, son fils, qui voulait à tout prix se convertir au bouddhisme, et le Dalai Lama leur disait, mais pourquoi vous voulez vous convertir au bouddhisme, vous êtes chrétien, restez chrétien, il n'y a aucune raison, chacun a une religion dans laquelle il est né et qui lui a été donné, à quoi ça vous servirait de vous convertir? De toute façon, vous ne serez jamais un vrai bouddhiste. Donc, autant que vous soyez un bon chrétien, c'est beaucoup mieux. Donc, je trouvais ça assez, assez intéressant de la part quand même de quelqu'un dont on pourrait penser qu'il serait très content que les gens se convertissent à sa religion. Mais pas du tout. Il n'est pas du tout... je pense que c'est toujours très suspect, les gens qui essayent de vous convertir, quel que soit... Voilà, le prosélytisme est toujours un peu...
Mais ce qu'il y a, c'est qu'une tradition imprègne davantage que ce qu'on imagine. C'est-à-dire, ça ne ressort pas seulement à travers des rites, à travers des textes. Ça a imbibé et imprégné une culture, un paysage, une langue. Ça a imprégné tellement de choses qu'on ne peut même pas les identifier. Et donc, quand on est né là-dedans, on a absorbé cela comme le lait maternel depuis son enfance, et il y a beaucoup de choses qui sont parlantes sans qu'on ait besoin d'explications. Si on doit refaire tout le travail ailleurs, c'est un travail qui est coûteux en temps, et c'est pas sûr qu'on arrivera aussi bien à rentrer dans le cœur des choses, parce que c'est de ça qu'il s'agit en définitive.
Oui, oui. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de s'intéresser, de se nourrir de tout ce que les uns et les autres ont pu dire, etc. Mais de toute façon, moi, dans ma famille, il y a de tout, donc je comprends même pas que les gens disent « Ah, ma religion, ta religion... » Ça me paraît très bizarre. D'ailleurs, mes enfants me disent souvent, mais maman, on nous pose la question, c'est quoi notre religion ? Écoutez, je vais vous dire la réponse que je donne à mes enfants. Je dis à mes enfants, écoutez, vous n'avez qu'à dire que vous êtes de la religion d'Abraham. Étrangement, la source, en fait, englobe tout ce qui est venu après. Et je suis... D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé que vous évoquiez Abraham, parce que je trouve que souvent, on n'en parle pas assez d'Abraham. Mais en fait, c'est quand même notre... Voilà, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Il n'y a aucun doute sur la question. Enfin, en tout cas...
Aussi nombreux que les grains de sable sur les plages.
Exactement. Exactement. Et personne n'a le droit de dire non, c'est moi l'enfant d'Abraham, c'est pas toi. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est arrivé qu'on me dise ça. C'est arrivé. Mais de quel droit ? Je sais pas. Donc, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par méditation naturelle ? Je n'ai pas assez bien expliqué hier. Méditation naturelle, ça veut dire un état d'attention permanente, même quand on n'est pas assis à méditer. C'est-à-dire, si je devais le résumer, sentir Dieu présent et veillant à tout instant de l'existence, y compris quand on dort. Donc c'est ça. Mais c'est le travail d'une vie. Ça veut dire, voilà, avant chaque acte, avant chaque décision, avant, je ne sais pas, mais en épluchant ses légumes, en endormant ses enfants, en écrivant un livre, en donnant une conférence, en répondant à des questions, ne pas oublier qu'on n'est pas seul et ne pas oublier pourquoi on est là et quel est le but de notre existence. Mais encore une fois, évidemment, c'est un horizon. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas exactement ce qu'on entend par méditation de la pleine conscience. J'ai quand même l'impression, je ne sais pas, si vous m'expliquez ce que c'est que la méditation de la pleine conscience, je pourrais vous dire si oui ou non ça... ça... Oui ? D'accord. Oui, alors c'est très différent. Effectivement, maintenant je me rappelle, Christophe André parle beaucoup de ça. C'est très différent parce que justement, et d'ailleurs ça c'est globalement tout ce qui nous vient d'Extrême-Orient est plutôt axé là-dessus. On parle beaucoup d'être présent à ce qui est, au réel, à l'instant, etc. Mais ça reste dans ce qui est ici et maintenant, et ce n'est pas en connexion avec une forme ou une autre de transcendance, n'ayons pas peur des mots. Et c'est la grande différence. Dans la méditation naturelle, il y a une connexion avec une idée de la transcendance, quelle que soit cette idée qu'on se fait de la transcendance. Et c'est la grande différence. Je pense que les traditions, c'est peut-être aussi la grande différence entre les traditions abrahamiques et les traditions d'Extrême-Orient, en particulier le bouddhisme, qui ne néglige pas dans le sens où le bouddhisme ne dit rien de la question de la transcendance. Le Bouddha lui-même dit tout ça, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout vrai que dans le bouddhisme il n'y a pas de Dieu. Dans le bouddhisme, on ne parle pas de Dieu parce qu'on considère que c'est un sujet qui est en dehors des capacités de l'humain. Le Bouddha dit très clairement, c'est un sujet dont on ne parlera pas. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, dans les traditions abrahamiques. Donc la grande différence, et très souvent j'ai été confrontée à ça, c'est-à-dire de dire, oui, être dans l'instant présent, etc., je ne pense pas du tout que les traditions monothéistes puissent se contenter de ça, même si c'est un... il y a de très bonnes techniques qui sont enseignées par l'Orient pour justement cette mise en présence, mais cette mise en présence, elle est quand même habitée par une transcendance qui, à mon sens, n'est pas dans... D'ailleurs, Christophe André le dit très clairement, il dit, moi, je ne fais aucune référence ni à la religion, ni à la transcendance, ni etc. Dans la méditation naturelle, il y a l'idée d'un Dieu et d'une transcendance.
Si je peux faire référence alors à ma tradition, et au début, donc les pères du désert cherchaient la prière continuelle. Je pense qu'on est dans la même veine, la prière perpétuelle. Et ils disaient même, si tu as conscience de prier, alors tu as déjà quitté la prière, quelque part. Donc c'est être dans cette forme de reliance, voilà. À travers soi, à quelque chose qui est au-delà de soi.
Oui, et puis en plus, par exemple, dans la prière telle que la pratique, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, un petit peu moins peut-être dans la tradition juive, mais il y a l'idée d'un dialogue. C'est quand même l'âme qui dialogue avec un autre. Dans la tradition juive aussi. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, ça c'est un peu plus éloigné, je dirais, maintenant. Mais quand même, oui, bien sûr, on parle à Yahvé. Dans l'Ancien Testament, on est tout le temps en train de parler à... D'ailleurs, c'est très étrange, parce que la transcendance, elle devient extrêmement c'est presque un ami avec lequel on peut parler, ce qui est très étrange quand on pense qu'évidemment il y avait un dieu un peu, c'est le dieu créateur qui fait un peu peur, etc. Non, il parle aussi, il parle sans cesse, il parle à ses prophètes, il parle à son peuple, il parle. Donc on est dans un dialogue, pour le coup, dans les méditations d'Extrême-Orient, il n'est pas du tout une question de dialogue. C'est on est avec soi-même. Enfin, pour ce que j'en sais, parce que je n'ai pas pratiqué. Voilà.
Il parle aussi de méditation transcendantale, avec un mantra.
Oui. Mais ça, c'est encore autre chose. Et transcendantale, ça n'a rien à voir avec. Ça ne veut pas dire que c'est lié à une transcendance. Transcendantale, d'ailleurs, je n'ai toujours pas très bien compris ce que c'était. J'ai demandé plusieurs fois et j'avoue, je n'ai toujours pas compris. Je crois que c'est quand même lié à un état de modification de la conscience. Et l'état de modification de la conscience n'est en aucun cas garant qu'on est en contact avec quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Je n'ai pas eu le temps d'en parler hier, mais il faut faire très très attention à ça. Les états d'extase, etc., ça peut être complètement des écueils. On peut croire qu'on est relié à quelque chose alors que c'est juste c'est presque un effet électromagnétique dans le cerveau provoqué par la répétition, par exemple, d'un mot ou la répétition d'un geste ou des choses comme ça. Oui. Oui. Oui, oui, les soufis, alors ça dépend lesquels, mais globalement, ça fait quand même partie des pratiques fondamentales des soufis, de répéter précisément ces noms de Dieu. Qui ont des effets particuliers selon les états particuliers de chacun. Et en général, les maîtres soufis donnent on appelle ça un mantra, mais en fait, c'est un nom de Dieu. Dans le soufisme, on appelle ça un zikr. Donc, ils donnent un zikr particulier. Alors, il y a des zikrs communs, où on répète un mantra ou une prière à voix haute ensemble. Mais aussi, les soufis ont aussi ce qu'on appelle le zikr intérieur, que leur maître leur donne, et parce que ça correspond à leur état particulier. Et ils doivent répéter, par exemple, tant de fois tel nom de Dieu, etc., selon des calculs qui changent selon les confréries. Mais oui, bien sûr, la pratique de la répétition du mantra est très, très importante dans les pratiques soufis, avec un travail sur le souffle aussi. Mais encore une fois, ce sont des noms de Dieu. Alors, je vous dis, selon la tradition, ou 99 ou 999, puisque le centième ou le millième est le nom inconnu. Plus fort. Ça, je crois que Eric saura mieux.
Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais Lawrence Freeman ne me l'a pas rapporté lui-même, mais c'est ce que j'ai entendu dire également. Tu peux dire que Lawrence... Ah oui, d'accord. Ah ben voilà. D'accord. D'accord. Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Ah ben sinon je m'amusais bien, je me délectais, j'ai écouté. C'est bien, c'était intéressant. Oui, alors, non, bien sûr.
On va peut-être, si ça ne vous ennuie pas, utiliser le micro, parce qu'en fait, on enregistre toutes les conférences, et si on n'utilise pas les micros, ça ne sera pas enregistré.
Ça
ne
passe pas, d'accord. Sinon, alors...
Il y a certaines choses que vous ne mettrez pas sur le site, j'espère, que vous avez enregistré.
Oui, donc ma question, c'est, vous avez été, prolixe sur... le vivre, c'est-à-dire sur l'expérience, sur le mystique, en tout cas beaucoup plus que sur le dire, sur l'initiatique. Alors, en plus, parenthèse, mais moi je traduis le vivre par être dans le faire, en référence à Etienne Hilsum. Ma question, c'est est-ce à dire que cet état de vivre est primaire ou prioritaire plutôt par rapport au dire, que vous classez en secondaire, et le cas échéant, si c'est effectivement pour vous une prépondérance de l'un par rapport à l'autre, Y a-t-il à ce moment-là des attitudes ou des pensées à établir pour éviter une sorte de dérive vers le dire qu'on pourrait, si vous le placez en secondaire, considérer comme étant, je dirais, à se prémunir?
Les deux voies sont des voies de connaissance, selon des modalités différentes. Si j'ai pu donner l'impression de privilégier la voie du vivre, c'est parce qu'en final, je voulais aboutir à la méditation. La méditation qui n'est pas une prière mentale, qui n'est pas une prière discursive, où on utilise cette partie-là de nous-mêmes, qui est tout à fait intéressante, cette intelligence, cette capacité de saisir des choses, de les comprendre, de les prendre en soi, intellegere, c'est lire entre les lignes, et c'est comprendre, c'est rentrer dans les choses ou que les choses rentrent en moi. Donc on a cet outil, effectivement. Mais comme en finale, je souhaitais aboutir évidemment à la méditation, j'ai peut-être un peu insister davantage sur la voie du vivre, bien sûr. Voilà, c'est tout.
Alors, on pourrait le considérer pourtant comme étant prioritaire, parce que le dire, ça peut être assimilé au mental.
C'est vrai.
Et le vivre, c'est assimilé à la réalité. D'ailleurs, vous avez cité le mot à un moment donné de réalité.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Si je prends alors ma famille, mon papa était quelqu'un de très intellectuel, très mental. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un goût de trop peu dans cette voie-là, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience, du vécu, qui est au-delà des mots. Ben c'est cette distinction cataphatique, apophatique, etc. Bon. Alors, personnellement, je préfère le face-à-face, le tête-à-tête, le cœur-à-cœur intérieur. Je ne sais pas si, dans l'absolu, on peut dire que c'est mieux ou moins bien.
Moi, je voulais revenir sur Abraham et je me posais la question de comment sont faits les récits sur, justement, Isaac, Ismaël, dans les différentes religions. Je profite de vos compétences.
Oh là, ça. Alors, surtout sur Abraham, c'est compliqué. Le Coran, en fait, reprend un très grand nombre de récits, en fait, bibliques et évangéliques, d'ailleurs, puisque, par exemple, le prophète le plus cité du Coran, c'est Moïse. Après Moïse, c'est Jésus. Alors que, par exemple, tout ce qui concerne la vie du prophète Mohammed, etc., ne fait pas partie du Coran. Dans le Coran, il n'y a même pas son nom. Donc, effectivement, on voit bien que le Coran se présente comme étant la continuité, je dirais, de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec parfois des récits qui sont mot pour mot ce qu'on trouve dans la Bible, et puis d'autres fois des écarts, des différences, des nouveautés, comme je le disais, par exemple, l'histoire de la huppe et tout ça, ce n'est pas dans la Bible, alors que c'est très développé dans le Coran, l'histoire de la huppe de Salomon et de la reine de Saba, etc. Et je ne crois même pas que dans la Bible, ils disent que Salomon parlait avec les oiseaux. Si ? Je ne pense même pas qu'il parlait avec les oiseaux et les fourmis. Je ne crois même pas que c'est... C'est très étrange, d'ailleurs, parce qu'après, en fait, ce que le Coran attribue à Salomon, c'est saint François d'Assise qui le réalise un peu plus tard. C'est très intéressant, ça. Donc, toujours est-il que... Donc, voilà, il y a des choses qui sont différentes. Et je ne vais pas vous faire un exposé sur toutes les différentes. D'abord, je serais bien incapable de le faire comme ça, à l'improvisade, comme on dit. Mais, pour l'histoire d'Abraham, il y a le Coran, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la tradition des histoires des prophètes, qui sont parties, évidemment, du Coran, et puis après, qui ont brodé, qui ont développé, en général, qui ont rajouté des miracles, enfin des choses un peu mais très, très jolies, mais bon, qui sont pour renforcer les couleurs, quoi, des puissances de ces prophètes du passé. En tout cas, pour ce qui est d'Abraham, son histoire est à peu près la même, à cela près que le fils qu'il va sacrifier, c'est Ismaël, en fait. Et que donc Ismaël lui-même lui dit, mais mon père, quand même Abraham hésite, c'est Ismaël lui l'encourage en fait à ne pas hésiter. Donc ça, c'est une différence qui peut sembler tout à fait anodine et qui à mes yeux l'est, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est qu'il a accepté de sacrifier son fils. C'est le caractère allégorique qui est important ici, le caractère symbolique. Même si, je ne dis pas que historiquement, le personnage Abraham n'a pas accepté vraiment de le faire, mais c'est vraiment ce qui est important dans le texte sacré, c'est la signification que ça revêt pour nous. Mais c'est vrai que ça, c'est une des grandes pierres d'achoppement entre les musulmans et les juifs, et c'est un très grand malheur qu'une affaire de nom puisse mener à carrément des guerres. Et c'est un peu le cas. Et c'est bien regrettable, mais c'est comme ça. Mais c'est vraiment la grande différence, elle est là. Et pour les juifs, c'est une abomination, quoi, qu'on dise que c'était Ismaël, le fils, enfin, qu'il avait accepté de sacrifier, parce que ça déforme tout, parce qu'évidemment, Ismaël, c'était que le fils d'Agar, le fils de l'esclave, enfin. Il y a quelque chose de terrible là-dessus. Et les musulmans disent, mais non, mais voilà, les juifs, ils veulent se justifier. Ils ont chassé Agar, justement. Et voilà, parce que les musulmans se considèrent comme les descendants, en fait, de la descendance d'Abraham par Agar, en réalité. Et voilà. Et ça s'appelle une guerre fratricide, puisqu'après tout, ils étaient frères. Ils étaient frères par le père, ce qui, en l'occurrence, c'est ce qui comptait. Donc, voilà.
De ce que je connais... L'historicité d'Abraham n'est pas établie.
Non. Non. Bien sûr. De toute façon, l'historicité, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'historicité des personnages de la Bible, l'historicité de David, même de Moïse, enfin. Il n'y a pas de tombeau de Moïse, comme chacun sait. Même si...
Mais voilà. Je veux dire, contrairement à l'historicité du prophète, d'Allah,
oui.
Ou de Jésus.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est avéré.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est parce que c'est aussi très ancien. Ça remonte à tellement loin que forcément, la légende et l'histoire se mélangent.
Le mythe.
Mais je trouve pas. Personnellement, je trouve pas que ce soit une insulte qu'on dise c'est un mythe. Je trouve que c'est plutôt encore mieux. Justement, un mythe, c'est encore plus fort que bon. Quelque chose qui s'est passé juste historiquement, très intéressant. Mais en fait, le mythe est infiniment plus puissant pour nous en tout cas, pour le processus de transformation intérieure, c'est infiniment plus puissant le mythe que la réalité historique. Surtout que réalité historique, je me demande bien ce qui est de la réalité historique. Entre nous soit dit, quand on voit comment les faits sont déformés à l'échelle de notre vie à nous, on dit, mais moi j'y étais, je l'ai vécu, mais pourquoi ils ont écrit ça comme ça dans les livres d'histoire? Voilà, donc ma mère m'a raconté que pendant la révolution iranienne, il y avait des journalistes que je ne nommerai pas, parce qu'ils sont encore connus en France, qui s'étaient réunis, je ne sais plus après quelle grande manifestation où il y avait eu des morts, etc., pendant la révolution iranienne. Et ma mère était là, en fait, parce qu'elle était traductrice pour eux. Et donc, ils discutaient entre eux pour dire, bon, combien on va dire qu'il y a eu de morts? Non, parce que si on dit qu'il n'y en a eu que 100, ça ne va pas vraiment impressionner. Ils ont dit, bon, on va dire qu'il y en a eu 2000. Ah non, là, ça fait quand même... c'est pas crédible. Bon, allez, on va dire 1000. Et après, ça rentre dans l'histoire, ça. Parce qu'ils étaient à Téhéran, etc. Donc, on dit, ah ben non, c'est les témoignages des journalistes. C'est entré dans l'histoire qu'il y a eu à la suite de cette manifestation, 1000 morts. C'est quand même incroyable. C'est grave, mais c'est très grave, mais ce n'est pas la première fois. C'est comme ça, malheureusement, qu'on écrit l'histoire. Moïse est le prophète le plus cité. C'est un prophète qui est très, très aimé. Et malgré ou peut-être à cause de son humanité. C'est-à-dire qu'il est réputé être extrêmement colérique, comme je l'ai dit d'ailleurs la dernière fois, parce qu'il se met en colère contre le berger. Mais justement, et en même temps, c'est le gardien de la loi, mais il est très... Alors, chaque prophète a un surnom dans l'islam. Et le surnom de Moïse, c'est celui qui a parlé avec Dieu. Le surnom d'Abraham, c'est l'ami de Dieu. Le surnom de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Ça vous donne aussi une idée de la relation qu'on entretient avec chacune de ces figures. En tout cas, Moïse, c'est celui donc, qui a parlé avec Dieu, c'est le gardien de la loi, c'est celui qui est colérique et qui, en même temps, a une sincérité absolue. C'est-à-dire que comme il entend Dieu, quand il fait des erreurs, Dieu le corrige tout de suite et il reconnaît tout de suite ses erreurs. Et ça, c'est une très, très grande vertu. C'est que Moïse est un être, c'est vraiment le serviteur de Dieu avec toute la sincérité qui est imaginable. Donc, il est très, très aimé dans la tradition islamique. Peut-être aussi parce qu'il est gardien de la loi et que bien quand même la loi.
D'autres questions ?
Moi, j'avais une question, quand même, qui, ici, le petit papier vert, je voudrais quand même la traiter, enfin, si je peux. Je trouve que la méditation proposée Maranatha ressemble beaucoup à l'adoration eucharistique que l'on peut pratiquer, où l'on expérimente ainsi aussi la présence de l'esprit, où l'on se dépouille de toute pensée ou affect, et apprenons à faire le vide pour mieux descendre dans notre cœur profond. C'est là que la présence de Dieu peut advenir. Moi, juste une chose, me semble-t-il, c'est pas tout à fait ça, parce que l'adoration eucharistique, c'est face à l'Eucharistie, donc qui est en dehors de moi, tandis que la méditation, c'est pas face à quoi que ce soit, c'est à l'intérieur de moi.
C'est une question pour les deux. Hier, vous avez lu ces poèmes mystiques, enfin, de ces femmes mystiques, qui étaient magnifiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas des études qui ont été faites ou sur l'état psychique de ces grands mystiques ?
Je vous laisse répondre à cette question.
Oui.
Si, on les a traités d'hystériques, oui. Bien sûr. Oui. Mais vous aurez remarqué que quand les hommes disent des poèmes mystiques, on trouve ça sublime. Et quand c'est les femmes, on trouve qu'elles sont hystériques. Je me demande bien pourquoi. Enfin, en général, les études sont menées par des hommes qui ont très, très peur de l'hystérie féminine. Et voilà, j'ai assisté une fois à une conférence d'un philosophe qui a démoli Simone Veil en disant que de toute façon, elle était complètement, elle relevait de la psychiatrie. Et que, évidemment, c'était un abus de langage de l'appeler philosophe. Moi, j'avais envie de lui dire, oui, c'est presque une insulte dans ces conditions, de l'appeler philosophe. Mais ça veut dire quoi, l'état psychique ? Ça veut dire quoi, la folie ? C'est la seule vraie question. Ça veut dire quoi, la folie ? Après tout, les vrais grands mystiques sont tous des fous de Dieu et fiers de l'être.
On a pu penser que Paul lui-même était épileptique. C'est vrai.
Le prophète Mohammed aussi était épileptique, ça, on le dit historiquement.
Oui. Oui. Donc, enfin, Paul, on ne sait pas, mais on s'interroge. Mm. Donc.
Oui, je disais, Catherine Clément a fait un très beau livre, je ne me souviens plus du titre, mais expliquant comment des saintes, enfin des mystiques en Inde seraient traitées de folles ici en Europe. Quoi. Donc c'est vraiment tout un contexte. Et aussi souvent, les dénominations viennent des hommes, bien sûr.
Oui, et puis en plus, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est quand même des sorcières qui méritent que le bûcher. Et elles ont été brûlées vives. Justement, comme je disais, Marguerite Porret, on trouvait qu'elle était complètement possédée. On les traitait de possédés, de sorcières. C'est quand même très étrange, parce qu'encore une fois, les pères du désert, on les a jamais traités de possédés ou de... Alors que, bon, de temps en temps, on pourrait se poser des questions quand même sur leur santé mentale. Mais justement, pourquoi? Parce qu'ils ont brisé les normes de la raison. En fait, que fait le mystique quand il est dans une démarche d'amour absolu? C'est qu'en fait, il brise les normes de la rationalité. Par conséquent, il entre dans ce que l'on appelle la catégorie folie. Ici, nous avons d'éminentes spécialistes de la psychologie humaine, donc je ne m'aventurerai pas, mais il me semble qu'il y a un livre qui est publié tous les je ne sais pas combien d'années aux États-Unis, qui est le livre des maladies mentales. Voilà, et que... Voilà, et que à chaque nouvelle édition, la définition de la folie augmente, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fous, en gros. Enfin, il y a plus en plus de gens qui sont qu'il faudrait classifier comme fous. À ce train-là. Oui, non, mais c'est ça, c'est pour leur donner des médicaments, c'est vrai. Donc, ça, finalement, qui peut dire ce que c'est que vraiment la raison et ce que c'est que la folie? Je crois que Marie de Henzel.
J'avais une question sur ce rapport entre cet amour fou et l'amour charnel. Parce que, historiquement, l'hystérie, dont Freud, toute la psychanalyse est née de l'hystérie, et donc de femmes qui avaient un gros problème avec l'amour charnel dans un monde où il était culpabilisé. Aujourd'hui, il y a moins d'hystérie, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des mystiques modernes qui vivent l'amour charnel, et peut-être à travers l'amour charnel, cherchent sont dans cette quête de l'amour absolu. Je pensais à le livre de Christiane Singer, Une passion, sur l'histoire d'Héloïse et Abélard. Héloïse est-elle une mystique qui justement vit dans l'amour charnel avec Abélard cette quête de l'absolu? Parce que les femmes qui ont été citées hier sont-elles des femmes qui vivaient aussi dans l'immanence, dans le concret, dans l'amour charnel, quelque chose de cette quête?
Vous voulez répondre à cette délicate question?
Oui, la question est délicate. Je ne vais pas répondre, je vais dire, frontalement. Je dirais que il me semble que dans l'amour charnel, l'amour entre êtres humains, on peut avoir, vivre certains moments de lumière céleste et entreapercevoir des lumières d'infini au cœur d'une relation très concrète et très charnelle avec un être humain. Voilà, je dirais cela. Mais...
Alors, je vais vous, moi aussi, je vais vous répondre, mais pas frontalement. C'est que j'ai fait il y a 3 ans, nous avons reçu Jacqueline Kellen pour un livre qui était justement, dont le sujet était celui-là. Et d'ailleurs, juste avant l'émission, j'avais été voir un spectacle qui avait été fait à partir du texte de Christiane Singer que vous citez. Magnifique, magnifique spectacle. En fait, c'est une femme seule qui, effectivement, qui écrit à Abélard, donc c'est Héloïse à la fin de sa vie écrivant à Abélard, et alors il y a des pages d'une beauté absolument saisissante sur précisément la manière dont cette expérience charnelle en fait l'a amenée à une expérience d'ordre spirituel. Et la puissance de ce texte me fait penser que probablement Christiane Singer aurait été beaucoup plus à même de vous répondre à cette question, car il semblerait qu'elle ait vécu cette expérience. Le texte est tellement fort qu'on peut imaginer qu'elle a vécu quelque chose qui lui a permis d'aller à ce point au cœur d'une expérience. Et donc, voilà. Et donc, j'ai posé la question à Jacqueline Kellen. Alors, elle nous parlait de ça, de comment le corps, etc. Hein. Et puis, à un moment, on lui dit, mais est-ce que vous l'avez vous-même vécu? Elle m'a dit, hélas, non, j'attends toujours. Et je n'ai encore rencontré personne, parce que hélas, je n'ai pas rencontré Christiane Singer, je n'ai encore rencontré personne qui parle de ces choses-là, mais qui puisse témoigner de l'avoir vécu. Alors, peut-être parce que c'est des choses dont on ne peut pas parler, c'était possible. En tout cas, j'ai posé la question à plusieurs femmes qui ont esquivé la question. Donc je ne sais pas si c'est de la même nature, si ça passe par là. Je crois quand même que c'est assez exceptionnel. Parce qu'il me semble que dans les relations humaines quotidiennes, la dimension de l'ego est telle que c'est très très difficile dans une relation amoureuse de s'abandonner à ce point à l'autre. Il faut une confiance, il faut une... Je ne sais pas. Je crois que c'est quand même très très difficile. Parce que tant qu'on est dans ce corps... la relation amoureuse est quand même une quoi qu'on en dise, quelle qu'elle soit, aussi belle, aussi désintéressée qu'elle soit, met en jeu quand même deux égos. Ce qui n'est pas du tout le cas entre l'âme et le divin, où il y a un seul égo qui essaie de faire ce qu'il peut. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est une question, une vraie question que j'ai, mais je n'ai pas de réponse en fait. Oui. Oui. Oui, alors si on y va par ce chemin, il est certain que si on se réfère à Ethyl Soum, on peut répondre à cette question que c'est même un obstacle. La relation amoureuse et charnelle est même un obstacle à cet avènement-là. Alors, encore une fois, c'est très délicat à dire, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener une vie tout à fait... Tout le monde n'est pas appelé à être Marguerite Porrette. On peut s'en inspirer, mais sincèrement, vous l'avez dit vous-même, tout le monde ne peut pas être les Pères du désert ou Marguerite Porrette. Tout le monde n'est pas capable de sublimer ces désirs naturels et légitimes qui sont les désirs naturels et légitimes du corps. Mais il n'y a aucun doute que nos attachements charnels, pas seulement sexuels, mais peut-être que le sexuel est ce qu'il y a de plus fort, donc c'est particulièrement un exemple frappant, mais globalement, tous nos attachements charnels, qui sont liés étrangement aux sept péchés capitaux d'ailleurs, nous empêchent d'une certaine façon, enfin en tout cas non régulés, non disciplinés, nous éloignent de la vérité, comme on disait tout à l'heure. Et, le chemin est l'obstacle, vous voulez dire? Oui. Oui, bien sûr. Absolument. Ça peut être un chemin, mais ça peut aussi être un obstacle. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de règle. Je crois que ça dépend totalement de la manière dont chacun le vit.
Ben exactement, oui.
Oui.
C'est bon,
oui, parler. Dans le tantrisme, c'est un chemin.
Oui.
Mais encore une fois, il faut faire très attention que dans le tantrisme, c'est pas du tout ce qu'on croit la plupart du temps. Les gens pensent que le tantrisme, s'ils pratiquent le tantrisme, ils vont connaître des formes de jouissance inconnues jusqu'à ce jour et que ça va les mener à des états d'extase et tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans le tantrisme, le sexuel fait partie d'un ensemble de pratiques et d'ascèses, y compris d'ascèses sexuelles. Et par conséquent, justement, ça ne contredit pas ce que je viens de dire. Parce que dans le tantrisme, on utilise les puissances du sexuel, les puissances du désir, en les disciplinant par une ascèse extrêmement rigoureuse, pour ensuite arriver à quelque chose qui dépasse totalement justement les désirs charnels. Mais ça les dépasse totalement. C'est pas le plaisir charnel n'est pas un moyen. C'est la puissance sexuelle qui, dans le tantrisme, est réutilisée dans une autre sens. Alors là, on est en plein éros. Et là, la puissance de l'éros, évidemment qu'en spiritualité, elle peut être utilisée. Mais la puissance de l'éros, ça ne veut pas dire la jouissance physique. Il y a vraiment un malentendu. Le tantrisme, ce n'est pas la jouissance physique qui amène à la jouissance spirituelle. C'est vraiment l'ascèse et la redirection du désir sexuel. Si j'ai bien compris, hein, parce que le tantrisme aussi, c'est l'affaire d'une vie, hein, d'essayer de comprendre.
Dans ce sens-là, ce qui me vient, c'est une connexion avec ce que vous disiez, avec votre question. Ce qui me vient, c'est de me dire que aussi bien la démarche intellectuelle de compréhension, peut-être la démarche d'action aussi, d'investissement pour les autres, etc., que la démarche à travers le corps, à travers une rencontre amoureuse personnelle, toutes ces démarches, quand elles s'inscrivent dans la spiritualité, débouchent et devraient déboucher ou ont une visée, une intention qui est plus large ou plus lointaine que cela. On ne s'arrête pas à cela. Ce n'est pas un point d'arrêt, c'est je dirais pas une fusée de lancement, mais enfin c'est quelque chose dont on a peut-être besoin à un moment donné, et puis que souvent je constate que les gens qui avancent disent je n'ai plus besoin de ça. Il y en a qui m'ont déjà dit je n'ai plus besoin de lire. Je me souviens du geste d'un homme très, très avancé dans la voie, pourrait-on dire, qui m'a fait comme ça avec ses mains, avec tous les livres. Il m'a fait comme ça. J'en ai eu besoin, je n'en ai plus besoin. Mais j'en ai eu besoin. Ça m'a été nécessaire, ça m'a apporté, ça m'a nourri aussi.
Moi, je voulais juste revenir sur... Je suis un petit peu gênée que l'on veuille à tout prix séparer comme ça les expériences, enfin en mettant parce que si j'en juge parce que j'ai ressenti et vécu hier soir avec j'ai pas envie de dire le spectacle, mais enfin reprenons le mot qui a été utilisé hier soir, les textes que vous nous avez lus et puis ce qui s'est passé avec la musique et ce qui s'est passé à cet endroit-là, pour moi je ne faisais pas de différence enfin entre le mystique, le spirituel et l'érotisme.
Ah non, vous avez
raison. Pour moi, c'était des poèmes érotiques.
Complètement, c'est ce que je dis, c'est la puissance de l'éros, bien
sûr.
J'allais
dans le sens de l'unité entre tout ça.
Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce dont parlent ces femmes, c'est une expérience du divin qui se manifeste dans leur chair, absolument, vous avez raison, en puissance érotique. Il n'y a aucun doute, ce n'est pas pour rien que le Bernin... sculpte la Thérèse dans un état d'extase qui est une extase corps et âme. Il n'y a aucun doute quand elle dit le divin amour tira sur moi et me laissa toute épuisée, évidemment que l'image est plus que charnelle. Elles vivent totalement dans leur chair une expérience. Ce que je séparais par rapport à la question, c'était de dire... C'est pas qu'elles n'ont pas eu une expérience sexuelle avec un homme. Il n'y a aucun doute que Thérèse d'Avila n'a pas eu une expérience sexuelle avec un homme qui l'a amenée à dire ses poèmes. C'est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire qu'elle a connu toutes les nuances de la jouissance charnelle sans connaître un homme. Et c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que ce n'est pas dans la relation sexuelle entre un homme et une femme dans ce monde... Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce dont elle nous parlait hier soir. Ce dont elle parle, ces femmes-là, c'est quelque chose qui est vraiment, effectivement, une expérience totale, corps et âme, mais qui est au-delà de ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous appelés à ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde, d'ailleurs, ait la capacité de... En fait, elles ont une expérience tantrique, d'une certaine façon. Parce qu'elles la puissance érotique chez elles est complètement concentrée sur autre chose. Mais vous avez raison, c'est ça qui fait la beauté des textes d'ailleurs.
C'est très étonnant justement, c'est le chemin inverse de la sublimation. C'est-à-dire que beaucoup de religieuses subliment leur éros. Et là, dans ces poèmes, dans le Cantique des Cantiques, dans Thérèse d'Avila, on a l'impression qu'elle découvre la jouissance presque sexuelle après un chemin spirituel.
Oui.
Et c'est bizarre quand même.
C'est-à-dire que c'est une incarnation. Non, c'est pas bizarre, c'est parce que ça s'incarne. Vraiment, ça s'incarne.
C'est mystérieux, quoi. Sexuellement, c'est mystérieux.
Ah oui, c'est très, très mystérieux.
Très mystérieux.
C'est très, très mystérieux. Et à chaque fois que vous lisez des descriptions d'extase, c'est très, très mystérieux. Parce qu'on a vraiment, on a vraiment le sentiment que quand on ressent une espèce de présence, c'est presque le corps se disloquerait presque. Et c'est une souffrance, jouissance, enfin c'est...
C'est orgastique, quoi.
Oui.
Faut le dire.
Faut employer le mot.
Mais c'est ça. Et pour les hommes, alors, les hommes, les grands mystiques, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils éjaculent pour aller directement au...
Ah, je ne sais pas, je n'ai pas posé la question.
Non, non, mais on a pas l'impression qu'ils décrivent.
En tout cas, dans le tantra, surtout pas. Oui. Dans le tantra, il faut absolument retenir la semence.
D'accord. C'est peut-être ça qui est plus juste.
Dans le tantra, oui, il faut retenir. Et dans les pratiques sexuelles de la Chine aussi, qui sont inspirées du taoïsme, il faut absolument retenir la semence, ce qui permet d'atteindre à une forme de pour allonger même sa vie. Hein. C'est très technique. Les Chinois sont très pragmatiques. Voilà, donc il faut...
Peut-être une dernière question.
Parce sur que ces leur... questions extrêmement...
Voilà, je sens qu'on est parti dans des grandes envolées. Donc...
Je ne sais pas.
Je peux lire quelque chose qu'a écrit Rainer Maria Rilke. Justement sur les questions et les réponses. J'aimerais vous supplier d'avoir patience avec tout ce qui n'est pas dénoué dans votre cœur et d'essayer d'aimer les questions elles-mêmes, comme si elles étaient des chambres scellées ou des livres écrits en langues étrangères. Ne cherchez pas les réponses qui ne pourraient maintenant vous être données parce que vous seriez incapable de les vivre. Et ce qui importe, c'est de tout vivre. Vivez les questions maintenant. Peut-être qu'ainsi, un jour, dans un futur lointain, sans vous en apercevoir, vous allez simplement, en vivant, entrer dans la réponse.
Mmh. Magnifique.
Merci.
Ah oui, merci beaucoup. Rilke, c'est toujours...